Romains 10, 1 à 11, page 1277. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, « Qui montera au ciel ?» Ce serait en faire descendre Christ. Ou « Qui descendra dans l'abîme ?» Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte.
Dans les soirées découvertes, rencontres découvertes qu'on a le mardi soir, il y a une question récurrente qui est posée alors qu'on parcourt l'évangile de Marc. C'est comment se fait-il que les gens qui ont entendu Jésus parler, qui l'ont vu, n'ont pas cru en lui ? Comment se fait-il qu'il y ait eu autant de prophéties dans l'Ancien Testament qui témoignent de lui et pourtant ils l'ont rejeté ? Alors aux participants du mardi soir, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Non, ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est semble-t-il avec cette question à l'esprit que l'apôtre Paul rédige les chapitres 9, 10 et 11 de sa lettre aux Romains. Et la question, elle n'est pas secondaire pour l'apôtre Paul. Si vous regardez tout au début de sa lettre, au verset 2 et 3, il commence par dire que ce Jésus dont il parle avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, et qu'il est bien venu de la lignée de David, comme c'était annoncé. Si c'est dans le cadre du peuple d'Israël qu'il est venu, si c'est parmi les membres du peuple d'Israël qu'il est venu, comment se fait-il que si peu aient cru en lui ? Comment se fait-il qu'une bonne partie du peuple ait rejeté ? Et la question, elle est d'autant plus pressante pour lui qu'il l'a vu dans son ministère, lui-même en annonçant l'évangile, à ses compatriotes, l'a vu, un rejet massif, une opposition même. Et à l'inverse, du côté des non-juifs, un accueil favorable, en tout cas souvent favorable. Comment comprendre ce rejet ? Comment comprendre cette incrédulité de ses compatriotes ? Dimanche dernier, on a vu un premier élément de réponse dans le chapitre 9. On a vu que ce que Paul met en avant, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Le salut, ce n'est pas une question de descendance biologique, d'être de la bonne lignée. Ce n'est pas une question de mérite. Le salut est fondé sur la grâce de Dieu, un choix libre de sa part. Et le deuxième élément de réponse se trouve ici, au chapitre 10. C'est la responsabilité des membres du peuple juif dans leur manière de recevoir cette bonne nouvelle, dans la manière de réagir à ce message. Beaucoup ont rejeté ce message. Et un des intérêts, ça va être de comprendre en quoi ou comment ils l'ont rejeté. Maintenant, en sachant qu'on va essentiellement parler d'Israël, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais quel intérêt pour nous ? Quel intérêt pour nous de lire ce passage ? Pourquoi s'intéresser à ce qui s'est passé à l'époque de l'apôtre Paul ? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus préoccupants aujourd'hui, sur un plan géopolitique, la situation dans le monde, la situation économique ou la menace terroriste, les élections ? Alors on va faire un petit exercice pour commencer. Je vais dire une ou deux phrases, et si vous n'avez jamais entendu cette phrase ou l'équivalent, vous levez la main. Bon, j'imagine qu'il y en a qui auront peur de lever la main, mais sentez-vous libre quand même de lever la main. On y va. Quelle que soit la religion, le plus important, c'est d'être sincère. Quelle que soit la religion, le plus important, c'est d'être sincère. Ce qu'il y a de plus important, quelle que soit notre croyance, quelles que soient nos convictions, c'est de faire le bien. Qui n'a jamais entendu ça? Vous avez le droit de lever la main. Vous ne serez pas sanctionné à la fin. Eh bien justement, l'apôtre Paul dit dans ce passage, au verset 2, « Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. » Et un des enjeux de ce passage, ça sera de voir qu'il y a une distinction nécessaire. Il ne suffit pas d'être sincère. Il ne suffit pas d'être sincère. Comme plan, je suggère un contraste entre deux justices et la foi en une parole toute proche. Un contraste entre deux justices d'abord et ensuite la foi en une parole toute proche. Un des mots-clés justement de ce passage, c'est le mot « justice ». En grec, il est présent à 7 reprises. Et Paul y présente un contraste entre deux types de justice. Au verset 3, par exemple, il parle du contraste entre la justice de Dieu et leur justice propre, celle des membres du peuple d'Israël. Au verset 5 et 6, il parle d'un contraste entre la justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. Contraste entre deux justices qu'il va falloir comprendre. Mais avant d'aller d'en parler de ce contraste entre deux justices, ça vaut la peine de réfléchir à l'état d'esprit dans lequel l'apôtre Paul écrit ces lignes. Comment est-ce qu'il écrit ces lignes? Comment est-ce qu'il va parler de la responsabilité de ses compatriotes? Est-ce qu'il faut l'imaginer avec un cœur amer, avec un sentiment « mais ils ont tout faux, ils sont complètement à côté de la plaque ». Regardez comment il commence. « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés ». Il a subi de la part de ses compatriotes toute une série de persécutions. Emprisonnement, flagellation, lapidation. Et ce n'est pas fini, il y en aura encore. Dans la peau de l'apôtre Paul, est-ce que vous pourriez dire que le vœu de votre cœur, votre prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé? Est-ce que vous pourriez le dire? Ce n'est pas du tout un homme amer ou animé par la vengeance qui écrit ces lignes. C'est quelqu'un qui aime profondément ses compatriotes. Et ce n'est pas tout. Il affirme ensuite au verset 2 qu'il y a chez ses compatriotes un zèle authentique pour Dieu. On pourrait définir le zèle par un engagement, une sincérité, une détermination à plaire à Dieu. Et dans la Bible, à plusieurs endroits, on voit que le zèle est très positif. On voit même que pour Jésus, quand il chasse les vendeurs du temple, c'est par zèle qu'il le fait. C'est très positif. Maintenant, si on devait illustrer la situation des Israélites, de ses compatriotes vis-à-vis de Dieu, devant Dieu, comment est-ce qu'on l'illustrerait? Imaginons une colonie. Est-ce qu'il faudrait l'illustrer de la façon suivante? On a un animateur qui s'occupe d'un groupe d'adolescents qui vont faire des activités sportives. Et il a en face de lui un ado qui n'est pas très doué dans la discipline. On va prendre la planche à voile. Mais il fait de son mieux, il se donne de la peine. Est-ce qu'on n'imagine pas l'animateur lui dire « Mais c'est magnifique de voir ta détermination. C'est super de voir combien tu persévères, combien tu te donnes de la peine. » Et selon cette illustration, quelqu'un pourrait dire « Mais est-ce que Dieu ne ferait pas pareil ?» avec des gens qui démontrent du zèle, la détermination. Dieu poserait une exigence trop forte sur le peuple juif en estimant que l'intention, le zèle ne suffit pas, il faut plus. Est-ce qu'il rejetterait ces personnes qui font de leur mieux pour lui plaire? Mais ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut comprendre la situation des Israélites devant Dieu, selon l'apôtre Paul. Après avoir relevé leur zèle, ils précisent, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Autrement dit, leur zèle n'est pas bien fondé, il n'est pas bien dirigé. Et là encore, on pourrait se dire, mais c'est simplement parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas assez, ils n'ont pas reçu les informations nécessaires. Mais ils précisent au verset 3, ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Ils ignorent la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice. Autrement dit, c'est pas parce qu'ils ne savent pas. Et remarquez que l'apôtre Paul ne dit pas « mais il suffit d'aller leur dire ». Non, ils ont entendu ce message de l'Évangile, simplement ils l'ignorent. Ils ne veulent pas s'y soumettre, se soumettre à Dieu. Toute illustration a ses limites, mais retournons à la colonie. L'adolescent qui est en train de faire de la planche à voile, avec sa complexité, ne veut pas entendre l'animateur. Ne veut pas entendre ce que l'animateur a à lui dire sur la manière de s'y prendre. Non, c'est à moi de le faire, je me débrouillerai tout seul. Je n'ai pas besoin de voir comment ça se fait, je me débrouillerai tout seul, c'est à moi d'apprendre tout seul. Pour peut-être prendre une illustration en dehors de la colonie, parce que vous dites, la colonie, j'y vais plus depuis longtemps. Pour une autre illustration, prenez un domaine où vous n'êtes pas du tout doué. Là, il faut être honnête, vous avez certainement des domaines, la mécanique auto par exemple, ce que tout le monde maîtrise, l'informatique ou alors la plomberie. Vous avez un problème à la maison et vous faites venir un expert dans le domaine. Est-ce qu'au moment où il va résoudre le problème, vous allez dire « Non, ça, c'est à moi de le faire, on est chez moi, c'est mon problème, c'est moi qui m'en occupe, tu te mets de côté, s'il te plaît. C'est moi qui m'en occupe. » Et si on faisait ça, quelle serait la motivation derrière le fait de refuser ce qui nous est offert? N'est-ce pas un certain orgueil? On estime que c'est à soi-même qu'on doit regarder, c'est sur soi qu'on doit compter. On va y arriver tout seul, un manque d'humilité. Mais ici, c'est pareil avec la solution que Dieu offre au problème de notre justification devant lui. Avec un certain orgueil, un sentiment d'autosuffisance, les compatriotes de l'apôtre Paul refusent cette justice qui est donnée. Et ça nous donne l'occasion de parler de cette justice selon Dieu, cette justice de Dieu. De quoi s'agit-il? Alors ceux qui étaient au culte en commun ce matin ont eu tout un message dessus, au culte en commun avec toutes les églises de la rive gauche. Bon, je ne vais pas réussir en une phrase, mais pour quand même essayer de le résumer, avec les éléments qu'on a aussi ici, c'est cette justice de Dieu qui est présente à différents endroits dans cette lettre aux Romains. Il s'agit d'une justice que Christ a pleinement manifestée. Il l'a incarnée, non seulement par la vie qu'il a vécue, mais aussi par sa mort. Par sa mort, il prend sur lui notre condamnation et par sa vie, une vie parfaitement juste, il nous donne cette justice, il nous rend bénéfice de cette justice. Au verset 4, il est question de recevoir cette justice, d'être en quelque sorte couvert par la justice de Christ. Et l'apôtre Paul, pour nous aider à voir la différence, justement, utilise les contrastes. Un contraste entre une justice qu'on essaie d'établir par soi-même, par ses propres efforts, en obéissant à la loi, et une justice que Dieu donne, celle de Christ, et qu'on saisit simplement par la foi. Et l'apôtre Paul dit l'importance de Christ au verset 4, car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Christ est la fin de la loi. Alors c'est une petite expression qui n'est pas facile à saisir, ou c'est difficile de mettre exactement un doigt sur ce qu'il a voulu dire, sans prétendre faire le tour de la question. Une illustration que j'ai trouvée utile d'un commentateur, c'est celle d'une course. Israël est le coureur, la piste qu'il doit courir, c'est la loi. Mais l'arrivée, l'achèvement de la course, c'est Christ et Christ seulement. Celui qui est en mesure de courir cette course, c'est Christ seulement. Israël peut se lancer dans cette course, mais il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas au bout de la course. Christ est l'arrivée de la course. Il est celui qui a achevé la course. Et sans lui, on n'y arrivera pas. Mais une fois qu'il est venu, Le Christ est venu et il a achevé cette course. Il représente l'arrivée de cette course. Eh bien, une fois qu'il est venu, elle est remportée, elle est achevée. Et l'apôtre Paul présente ici deux manières, deux types de justice, deux manières d'être justifié devant Dieu. L'une consiste à vouloir établir sa propre justice par l'obéissance à la loi. Mais le problème avec cette justice-là, c'est qu'on ne va pas y arriver. L'apôtre Paul l'a établi au début de sa lettre. Personne n'est juste, pas même un seul. Mais d'autre part, le problème supplémentaire, c'est qu'on est en train d'ignorer la justice que Dieu a donnée, la seule véritable justice manifestée en Jésus. C'est ne pas vouloir s'y soumettre que de ne pas écouter. Et la deuxième justice, celle que Dieu donne, elle est incarnée par Jésus. Il est le but, il est l'accomplissement de la loi, le seul qui ait achevé la course. Et qu'est-ce qui se passe si on ne voit pas la distinction entre ces deux justices? Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas la différence entre les deux? Et bien dans la peau d'une personne qui estime qu'il peut vivre de manière juste tout au long de sa vie, qu'il peut atteindre les exigences morales, celles de Dieu dans la Bible, mais même pour quelqu'un d'athée qui ne prendrait même pas les commandements de la Bible au sérieux, même sa propre morale, tout ce qu'il exige des autres par exemple, même cette morale-là, personne n'y arrive. C'est s'obstiner à vouloir obtenir une justice, sa propre justice, en refusant la justice de Dieu. Ne pas la distinguer dans la peau d'une personne chrétienne, c'est nuancer la différence, manquer l'urgence de la situation pour ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Christ. Vous vous souvenez des premières paroles de l'apôtre Paul ici ? Le vœu de mon cœur pour mes compatriotes et ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Ça, c'est un endroit où j'ai été repris en méditant ce texte. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur quand je croise, dans une journée donnée, des centaines de personnes, des milliers de personnes dans les transports à la gare Montparnasse? Est-ce qu'il y a le moindre vœu dans mon cœur ou est-ce que je vis tous mes jours comme si chacun peut vivre son chemin, sa propre voie, pourvu qu'on soit sincère? Le vœu de son cœur, c'est qu'il soit sauvé. Et quant au voisin, est-ce que je peux vivre des bons moments? Alors, vous dites, c'était quoi ça? Mais c'est justement un bon moment de foot avec les voisins, où je me suis écrasé. Des bons moments de foot, regarder un match ensemble, passer des bons moments d'amitié, et ne pas prier pour eux? Ne pas prier pour qu'ils soient sauvés? De ne pas voir l'urgence? Ce serait manquer cette distinction, d'estimer qu'en fait, c'est pas si urgent que ça, c'est pas si grave que ça. Mais sa prière à Dieu pour l'apôtre Paul, c'est qu'il soit sauvé. Maintenant, en parlant de cette distinction à faire entre une justice qu'on établirait par soi-même et la justice qui est donnée par Dieu, est-ce que c'est difficile à atteindre cette justice de Dieu? Et ça nous amène naturellement au deuxième point, la foi en une parole toute proche. Vendredi, on a célébré la Saint-Patrick. J'ai des ancêtres irlandais. Patrick, c'est comme ça qu'il faut s'habiller à la Saint-Patrick. Aussi cool que ça. Patrick, c'est le nom d'un missionnaire qui a vécu au 5e siècle et qui s'est rendu en Irlande justement pour y apporter l'évangile. Et dans les commémorations importantes, au-delà de la Saint-Patrick justement, il y a l'ascension de la montagne Croagh-Patrick. Cette montagne Croagh-Patrick, c'est une montagne où Patrick aurait passé 40 jours à jeûner. Elle marque aussi un tournant, semble-t-il, dans son ministère. Et chaque année, le dernier dimanche de juillet, ce sont entre 20 000 et 40 000 personnes qui montent cette montagne Croagh-Patrick. Et certains à pieds nus pour exprimer leur contrition. Une question que celui ou celle qui veut obtenir la justice de Dieu peut se poser, c'est Où est-ce que je vais la trouver, cette justice? Est-ce qu'il faut que je monte sur cette montagne, pieds nus de préférence, pour obtenir cette justice de Dieu? Dans les versets 6 et 7, l'apôtre Paul fait des citations du Deutéronome. « Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. » Une tentation pour celui ou celle qui veut saisir cette justice de Dieu, c'est de penser qu'elle requiert un effort, qu'il faut l'obtenir. Vous avez déjà entendu cette expression chez des athlètes qui sont en train de préparer une compétition ou alors il y a une finale en vue. Une petite expression qu'on entend, il me semble, assez régulièrement, c'est « il va falloir que j'aille la chercher, cette victoire. Il va falloir aller la chercher, cette finale. » Comme si, voilà, il faut mettre les efforts. Pareil avec la justice de Dieu. Est-ce qu'il va falloir aller la chercher, cette justice de Christ? C'est celle de Christ, ok, mais je vais devoir aller la chercher quelque part, non? Mais on va aller la chercher où? Au ciel? Christ est ressuscité, il règne déjà, il est déjà dans son règne. Ce serait en faire descendre Christ, descendre dans l'abîme, dans le séjour des morts, mais Christ, il est déjà ressuscité. C'est pas évident de comprendre comment l'apôtre Paul lit et comprend le texte de Moïse. Mais le lien qui semble faire ressortir, c'est la proximité de la parole. Et on le voit au verset 8. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. On ne doit précisément pas aller la chercher. C'est une parole proche, accessible, dans ta bouche, dans ton cœur. Autrement dit, tout près. Et ces expressions, ces références à la bouche, au cœur, il les reprend, semble-t-il, du Deutéronome, où on les trouve. Ce n'est pas une justice qu'il faut aller chercher au ciel ou dans l'abîme, elle est proche et accessible. Et qu'est-ce qu'on fait avec une parole qui nous est donnée? Et bien, l'apôtre Paul poursuit sur sa lancée en utilisant la bouche et le cœur. Au verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Comment comprendre ce qu'il écrit ici? Est-ce qu'il faudrait en quelque sorte le décortiquer pour trouver dans l'ordre des mots un sens particulier, un ordre dans lequel il faut faire les choses? Alors d'abord, il faut publiquement reconnaître que Jésus est Seigneur, publiquement reconnaître que Jésus est Seigneur, et après, dans son cœur, croire qu'il est ressuscité. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le lire? Ce n'est pas le but de ce passage. L'apôtre Paul utilise des parallélismes pour renforcer une idée centrale. Ce sont des vérités accessibles au sujet de Christ qu'il nous faut croire et confesser. Ce sont des vérités que l'on doit croire à l'intérieur, dans son cœur, mais aussi confesser par sa bouche. Des vérités au sujet de Christ. Et tout ce passage est clairsemé de références à la foi, au fait de croire, et ça vaut la peine juste de s'arrêter quelques instants pour essayer de clarifier qu'est-ce qu'on entend par croire, parce qu'il est facile de se méprendre sur ce que c'est que croire. C'est quoi croire, ces affirmations au sujet de Jésus? Est-ce que c'est croire simplement à une information donnée? On m'a dit que la terre était ronde, et je le crois. On m'a dit qu'il y a eu une tentative d'attentat à Orly, et je le crois. Voilà, on nous a donné une information, on l'accepte, sans plus. Ou alors est-ce que c'est une foi comme un saut dans le vide? J'ai aucune logique, il n'y a aucune logique là, il n'y a aucune raison pour croire ce qu'on me dit, mais comme par une sorte de pensée positive, allez, je me lance, j'y crois. Non, la foi dont il est question ici consiste plutôt à faire confiance. Faire confiance, ça serait un bon équivalent. Il y a à la fois un aspect logique, c'est fondé, c'est rationnel, et un aspect existentiel, je vais faire l'expérience de cette vérité. J'ai confiance que c'est vrai. Alors l'illustration, elle peut paraître peut-être un peu effrayante, mais elle est utile pour faire la différence entre les différentes façons de définir ce qu'on croit. Jean-François Gravelet est surnommé Blondin, pas mal comme surnom, hein, Blondin. Il funambule français qui a vécu au 19e siècle, et il est connu pour avoir traversé les chutes du Niagara sur une corde raide. Il l'a fait pour la première fois le 30 juin 1859, devant 12 000 spectateurs. Vous le voyez avec ses collants et sa barre. Il va le refaire en fait pas mal de fois, et chaque fois avec des acrobaties. J'en ai lu, je me suis demandé, c'est possible qu'il ait fait ça, saut périlleux arrière, saut périlleux avant, avec une chaise, basculant, en faisant la cuisine j'ai eu de la peine à... Mais semble-t-il, il l'a bien fait. Mais pour une de ses représentations en particulier, il a demandé à la foule assemblée, « Est-ce que vous pensez que je peux prendre quelqu'un sur mon dos et traverser les chutes du Niagara sur cette corde raide ?» Et la foule a répondu, « Oui ». Deuxième question qu'il a posée, c'est, « Est-ce qu'il y a des volontaires ?» Et là, c'est le silence complet, personne ne s'est proposé. Et c'est finalement son agent, Henri Colcord, qui l'a pris sur son dos et avec qui il a fait la traversée. Et je vous l'accorde, ça fait un peu peur comme illustration pour parler de la foi, mais ça nous permet de faire la distinction entre quelque chose qui serait totalement impersonnel, une information qu'on croirait mais qui n'a aucun impact, et quelque chose où l'on est appelé à faire confiance. C'est une chose de croire qu'il peut le traverser, mais c'est une autre de se dire, ben moi je vais traverser avec lui, je veux lui faire confiance. C'est pareil avec Christ, avec son œuvre, c'est pareil dans le fait d'être justifié devant Dieu. Ce n'est pas simplement une information vague et abstraite, c'est le fait de lui faire confiance du début de la vie chrétienne jusqu'à la fin, que c'est lui qui me justifie devant Dieu et lui seul. Quelle est l'utilité de ce passage ? C'est de comprendre, on l'a dit, pourquoi de nombreux compatriotes à l'apôtre Paul ont refusé ce message. Ils ont ignoré ce message en préférant établir leur propre justice. Mais quelle est l'utilité de ce passage pour nous personnellement ? Eh bien, la situation d'Israël, c'est comme une illustration de notre situation. Quand on se plonge dans l'histoire d'Israël, quand on regarde aux raisons pour lesquelles ils ont refusé ce message, on comprend mieux les motivations pour lesquelles on pourrait refuser ce message. On pourrait choisir une autre voie ou vouloir se tourner ailleurs. En plongeant nos regards dans leur histoire, on peut mieux comprendre notre histoire, leurs réactions, nos réactions, leurs motivations, nos motivations. Une petite histoire que quelqu'un qui a grandi dans cette église m'a racontée, et qui est un peu comme ce révélateur, c'est que quand il était en vacances, il a eu une conviction étrange avec le recul. Mais alors qu'il restait, il avait 10 ans, donc il restait avec sa famille, il avait en face de lui une petite montagne avec une croix sur le haut de la montagne. Et un soir, il a eu comme cette conviction que s'il ne montait pas sur cette montagne pour toucher cette croix, il serait damné, envoyé en enfer. Ça paraît un peu, ça fait sourire, mais c'était une conviction qu'il a eue à ce moment-là. Et il s'est mis en marche pour monter sur le haut de cette montagne. Heureusement, ses parents l'ont vu, l'ont dissuadé. Mais pourtant, il avait reçu un enseignement. Je peux même dire qu'il avait reçu un enseignement dans cette église. Un enseignement de ses parents, certainement fidèle. Et c'est seulement avec le recul que cette petite histoire illustre ce qui se passe dans son cœur. Une conviction qui n'est pas claire. On réalise, à travers l'histoire d'Israël, qu'on peut facilement vouloir établir sa propre justice par un effort, par une réussite. Dans un moment d'insécurité, dans les moments où on se sent dévalorisé, dans les moments où on a envie de se comparer aux autres dans un groupe, peut-être parce qu'on est incertain par rapport à l'avenir, incertain par rapport au jugement de Dieu sur notre vie, où est-ce qu'on va regarder? Où est-ce qu'on va regarder pour se savoir juste, justifié? Est-ce qu'on va se souvenir de ce passage? Est-ce qu'on va voir dans ce passage une raison d'avoir une foi en une simple parole donnée, la parole de Christ? Ou est-ce qu'on va vouloir trouver une réussite, un objectif qui nous donne une conviction plus palpable, plus forte, dans son travail, dans sa famille, dans son environnement? Et quand on partage l'évangile avec quelqu'un, est-ce qu'on va se souvenir de ce passage? Ou est-ce qu'on va, dans la conversation, alors qu'on est en train d'essayer d'écrire l'évangile, donner un tas de petits conseils, une liste de conseils, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, et donner finalement le sentiment que c'est pas si simple que ça de devenir chrétien. C'est pas une parole proche et accessible. Il y a toute une série de conseils à mettre en pratique. Est-ce qu'on va voir la proximité de cette parole? L'apôtre Paul affirme qu'il n'y aura pas de honte pour ceux qui ont placé leur foi dans cette parole qui nous est donnée. Amen.